RFI, 4h30 à Paris et à Libreville, 6h30 à Antananarive.
Nemo en piste.
Les pharmaciens gabonais, pas vraiment à la fête en ce début d'année. Ils ont annoncé ce mercredi une suspension de délivrance des médicaments en cause. La caisse d'assurance maladie qui ne leur assure plus les remboursements. La question est sur toutes les lèvres au Cameroun. Paul Biya sera-t-il candidat à sa succession en octobre prochain? Le suspense dure. En tout cas, ses opposants, eux, se lancent déjà dans la bataille avec leurs vœux de fin d'année, de début d'année plutôt. Des vœux qui ont fait réagir au Mali. Pas d'annonce concernant une éventuelle année électorale. Le général Assimi Goïta est resté muet le 31. À ce sujet, vous entendrez ceux qui soutiennent les autorités de transition et ceux qui, au contraire, n'ont pas manqué de les critiquer. C'est le cas de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Et puis qui dit célébration dit tradition. Nous sommes à Madagascar dans une dizaine de minutes où les jeunes perpétuent la coutume de Souloubou Diaïkou. Adresser leurs vœux aux anciens, leur offrir, pourquoi pas, un cadeau en échange d'une bénédiction de leur part. L'accès aux soins bousculé dès le premier jour de l'année au Gabon. Depuis hier, les pharmaciens ont déclaré un arrêt de délivrance de médicaments. Dans le pays, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGES, qui est en charge de garantir l'accès aux soins. Elle est certes obligatoire, mais n'assure plus les remboursements aux pharmaciens qui forcément, avec les retards dans le règlement des factures, sont en colère. Plus de détails à Libreville avec Yves Laurent Goma.
La colère est grande chez les pharmaciens, sitôt annoncée, sitôt appliquée. Plusieurs assurés ont eu la désagréable surprise d'être refoulés ce mercredi. Trop c'est trop, nous ne pouvons plus supporter, la dette s'accumule, nous avons des salariés et des impôts à payer, a confié un pharmacien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Les conséquences pourraient être désastreuses pour les Gabonais les plus fragiles, notamment les retraités, les chômeurs et les étudiants, dont la facture de médicaments est prise en charge à 90% par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGES. Les pharmaciens disent avoir pris cette décision douloureuse pour sauver leurs officines de la faillite. L'ardoise de la CNAMGES s'accumule depuis des mois. Les négociations pour solder la dette n'aboutissent pas. Les pharmaciens veulent désormais que leurs factures soient intégralement payées chaque mois. L'association des pharmaciens à l'origine du mouvement veut rencontrer le président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, pour expliquer les abus récurrents qui creusent le déficit de l'assurance maladie.
Yves Laurent Goma depuis Libreville. Un début d'année marqué sur le continent, je vous le disais, en titre par les vœux des chefs d'État. C'était le cas le 31 décembre au soir au Cameroun pour le président Paul Biya, lui qui a évoqué une année 2025 pleine de défis. A-t-il en tête la présidentielle d'octobre prochain? En tout cas, il s'est dit attentif aux sollicitations de ses militants pour le scrutin. Un vote très attendu dans le pays et pour lequel semblent déjà prêts les principaux leaders de l'opposition. Eux aussi se sont prêtés au jeu des vœux et ont donné le ton de ces joutes électorales à venir, ce qui a donné un réveillon aux airs de campagne électorale. À Yaoundé, la correspondance de Polycarpe Samba.
Cabral Libye, le président du PCRN, a été le premier à donner le ton pour ce député de l'opposition. Le plus grand espoir est que l'année 2024, qui vient de s'achever, emporte avec elle, je cite, le pouvoir en place qui a plongé le Cameroun dans une misère et une pauvreté sans précédent. Fin de citation. Ils estiment que c'est pas assez. Ils veulent nous enterrer vivants, a-t-il asséné, faisant référence aux dirigeants actuels et leurs appels à un nouveau mandat du président Paul Biya. Présenté comme le principal leader de l'opposition, Maurice Kamto du MRC a lui aussi dressé un tableau des plus sombres de la gouvernance du régime actuel. Mais il aura surtout mis un point d'honneur à lever tout équivoque sur sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. « Je serai candidat », a-t-il affirmé, voulant ainsi rassurer sur la recevabilité de la dite candidature, là où certains commentateurs avancent qu'il aura le plus grand mal à être au départ de cette présidentielle du fait du boycott en 2020 par le MRC des dernières élections municipales et législatives. Enfin, Joshua aussi du SDF a lui aussi dit tous les espoirs que charrie cette année 2025 en vue du changement. Il a lancé l'idée d'un nouveau front, le Front progressiste. Ce dernier qui se propose de rassembler partis politique et organisation syndicale se donne entre autres défi de régler s'il venait accéder au pouvoir en 100 jours les principales crises sécuritaires qui secouent le pays. Polycarpe Samba, Yaoundé, RFI.
Et ces vœux de la nouvelle année, on continue d'en parler ce matin sur RFI, cette fois direction le Mali où dans son adresse à la Nation, c'était également le 31 dans la soirée, le général Assimi Goïta a annoncé que 2025 dans son pays serait l'année de la culture. Si le président de la transition n'a pas oublié de se féliciter de l'action de l'armée nationale national au cours de l'année écoulée. Il n'a en revanche aucunement mentionné, pas même évoqué, la question de possibles élections. Sur place, c'est plus de 4 ans et demi désormais après le coup d'État. Nombreux sont ceux, acteurs politiques, observateurs ou simples citoyens, qui guettaient une éventuelle annonce sur le sujet. Je vous propose d'abord d'écouter Mohamed Kassoum Djiré, président du mouvement Sentinelle Malikoura, soutien des autorités.
La priorité des Maliens aujourd'hui n'est pas l'organisation d'élections dans un État déstructuré et dans un État en guerre de survie, surtout qui est menacé par le collectif occidental. L'élection n'est ni une priorité du peuple malien, ni une priorité des autorités du Mali aujourd'hui. Je retiens trois choses du discours du président du général d'armée Assimi Goïta. Un, c'est un nouveau Malien à travers le programme national d'éducation aux valeurs sociétales. Deuxièmement, le président Assimi Goïta a annoncé une émergence économique de notre pays pour permettre au peuple malien d'avoir des denrées alimentaires à des prix maîtrisés et aussi d'amorcer un développement économique basé sur nos ressources minières. Et troisièmement, l'avancée de l'opérationnalisation des forces de sécurité du Mali pour reconquérir l'ensemble du territoire.
L'avis de Mohamed Kassoum Djiré, et je vous propose à présent d'écouter celui de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Lui, vous allez l'entendre, est bien moins enthousiaste. Moussa Mara, dont le parti Yelema milite pour l'organisation d'élections au Mali pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, il ne cache pas sa déception après les vœux du général Assimi Goïta.
Nous nous attendions tous à ce qu'il ouvre des perspectives claires par rapport à la question des élections. C'est le discours présidentiel qui annonce le là par rapport à l'année 2025. Et le fait que rien n'ait été dit dessus laisse pour le moins perplexe. Aujourd'hui, il est évident que l'écrasante majorité des Maliens attendent la fin de la transition et des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel de notre pays. C'est une déception parce qu'aujourd'hui, la transition est essoufflée. Les conditions de vie des Maliens se détériorent de manière accélérée. Nous manquons d'électricité et l'électricité est indispensable pour tout. Même pour la promotion de la culture qu'il entend lancer en 2025, sans électricité, ce sera très, très difficile. Et on n'a eu aucune perspective sur cela aussi. La solution, c'est que nous ayons des élections pour mettre un terme à cette parenthèse et que le pays reparte de nouveau.
L'ancien Premier ministre malien Moussa Mara, qui, comme Mohamed Kassoum Djiré, était joint par David Bachet. Réaction aux vœux présidentiels tout au long de cette matinée sur RFI. Nous sommes en Guinée également ce jeudi et dans le journal de 4h30 en universel, la Guinée où le général Mamadi Doumbouya a pour sa part évoqué une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Fin de citation, le président de la transition qui ajoute qu'une date pour organiser un référendum pour l'adoption d'une nouvelle constitution devrait être proposé dans les 3 prochains mois. Ouverture d'une enquête hier par les autorités kényanes après la chute sur son sol d'un objet spatial. C'était lundi après-midi. Un grand cercle métallique s'est crashé à une vitesse vertigineuse à proximité du petit village de Mukuku dans le comté de Makueni. C'est dans le sud du pays et selon la KSA, l'Agence spatiale nationale, il s'agirait d'un débris spatial. RFI Nairobi, Gael Lalex.
Ce cercle d'environ 2,5 mètres de diamètre et pesant près de 500 kilos serait un anneau de séparation de lancement de fusées. Dans un communiqué, la KSA explique que ce type d'engin est normalement conçu pour se désagréger lors de son retour sur Terre ou bien retomber dans des régions inhabitées de la planète. Selon l'agence spatiale kényane, il s'agit donc là d'un incident isolé. Elle reconnaît toutefois que le problème est croissant. Certains débris spatiaux sont aussi gros que des voitures ou des bus, écrit la KSA sur X. S'ils devaient tomber, ils représenteraient des risques importants pour la vie humaine. Le rapport 2023 de l'Institut pour l'environnement et la sécurité humaine de l'Université des Nations Unies alertait déjà sur les risques des débris spatiaux. Aujourd'hui, un peu plus de 35 000 objets sont en orbite, dont un quart seulement sont des satellites opérationnels. Le reste n'est que déchets. D'ici 2030, plus de 100 000 satellites devraient être mis en orbite. L'ONU redoute une pollution massive de l'espace menaces et surtout des risques de chute qui affecteraient notre planète. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
L'actualité du continent, en bref, est la commission électorale du Burundi qui a rejeté mardi soir toutes les listes des candidats d'une coalition de l'opposition en vue des législatives fixées en juin prochain. Parmi elles, celle de l'opposant historique du pays, Agathon Rwasa. La CENI précise que la liste a été rejetée, je cite, parce qu'elle comprend 3 députés siégeant à l'Assemblée nationale au nom du parti CNL, non membre de la coalition, ce qui est en contradiction avec l'article 112 du Code électoral et l'article 7 de la loi sur les partis politiques. Un détour par la République démocratique du Congo et par l'est du pays, plus précisément par la province du Maniema, province aurifère, où selon l'Institut national des statistiques, l'INS, un peu plus de 3 personnes sur 4 sont en insécurité alimentaire. L'INS, établissement public qui collabore avec le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et qui appelle ainsi Kinshasa à une action urgente face à cette situation. Vous entendrez le directeur provincial de l'INS dans nos prochaines éditions. La RDC, où là encore, à l'occasion de la nouvelle année, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a annoncé une mesure collective de grâce présidentielle. Il est encore trop tôt pour l'heure pour savoir qui sera précisément concerné par ce geste. Passion Ligaudy, depuis la capitale, vous en dit plus dans le prochain journal consacré à l'actualité africaine. Rendez-vous à 4h30, temps universel. On vous parle notamment des principes qui vont guider la confection de cette liste. Direction Madagascar dans ce journal, avec cette tradition annuelle en cette période, les étrennes appelées Sulubu Diaïkou sur la grande île. Une coutume qui veut que les jeunes rendent visite à leurs aînés dans les premiers mois de l'année pour leur adresser leurs vœux d'abord, mais aussi et surtout pour leur offrir un cadeau. Et en retour, les anciens leur apportent une bénédiction, un moment de partage qui perdure et qui offre l'occasion d'unir les familles, toujours dans le respect de la tradition. Guillaume Fabry est à Antananarive pour RFI.
Témoigner du respect aux aînés, c'est le sens du Sulubu Diaïkou, une tradition malgache très ancienne que Ensu, 30 ans, tient à perpétuer en rendant visite à l'un de ses oncles.
On vient visiter les parents ou les ascendants pour leur offrir ce qu'on a de meilleur. De base, c'est le meilleur de la production, que ce soit le bétail ou les produits du poulailler. Plus tard, ça a été remplacé par de l'argent. Tout ça, ce n'est que la forme. Le fond est vraiment d'honorer les parents. Vraiment, le respect des plus âgés, c'est quelque chose qui nous tient à cœur en tant que malgaches, parce que ça fait partie de notre culture.
En échange de leurs vœux, les aînés demandent à Dieu ou aux ancêtres qu'ils accordent leur bénédiction aux plus jeunes. C'est aussi l'occasion de transmettre l'histoire de la famille et d'apaiser les tensions. Rakutu, 70 ans, l'oncle d'Ensu, accorde une grande importance à ce partage entre générations.
Lors de cette visite, on peut régler les mésententes, quel que soit leur degré, mais ça aussi traduit les liens familiales, les malgaches. Je pense qu'on est toujours liés, les parents, les grands-parents et même les aïeux. En fait, cela traduit bien cette unité.
En plus d'entretenir la paix dans les familles, la tradition du Sulubu Diaïkou doit favoriser la cohésion de toute la société. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et je vous proposais juste avant de faire un détour par la RDC et d'écouter le directeur provincial de l'Institut national des statistiques dans le Maniema. Eh bien, le voilà, et que je vous propose d'écouter Michel Moukombelois.
Cette proportion représente 2 555 021 personnes touchées en province du Maniema. Environ 456 254 ménages. Vous trouvez dans un ménage, on vous dit, tous les 2 jours, nous mangeons une fois. On vous dit, toute la semaine, nous n'avons consommé que la farine de manioc au sommet. Parmi les causes, nous avons relevé l'inaccessibilité des routes, les conflits communautaires à répétition, la hausse des prix des denrées alimentaires, aussi les catastrophes naturelles. Le risque est grave. Nous nous alertons. La malnutrition, un enfant mal nourri, un enfant en insécurité alimentaire, la capacité intellectuelle de ces messieurs-là, l'aspect cognitif diminue. C'est ainsi que nous allons trouver à un moment donné, les enfants ne sont pas intelligents. Nous alertons déjà l'autorité pour qu'ils prennent à bras le corps la situation. Comme du côté de la population, nous avons des superficies que nous pouvons cultiver. La population préfère aller dans les mines au lieu d'aller dans l'agriculture.
Michel Moukombeloa, directeur provincial de l'INS dans le Maniema, là où selon l'INS, donc 77% des ménages seraient en insécurité alimentaire. Il était au micro de Pascal Moulégua, RFI 4h44 ici à Paris. La deuxième partie de cette première édition d'Afrique Matin. Au Maroc, tout d'abord, où la vie de beaucoup de familles et de femmes pourrait évoluer, les premières pistes de réforme du code de la famille, la Moudawana, ont été dévoilées il y a un peu plus d'une semaine. Elles doivent encore poursuivre leur processus législatif avant d'être définitivement adoptées par les deux chambres du Parlement. Et deux décennies après la dernière refonte du texte, les attentes sont nombreuses dans le Royaume. Et parmi les nouvelles lignes proposées, celles permettant aux femmes divorcées et remariées de conserver la garde de leurs enfants. Reportage de Mathias Reynal à Casablanca.
Avec ses deux enfants, elle habite un petit appartement en banlieue de Casablanca. Il y a 3 ans, Mariem a décidé de divorcer.
La cause, c'était la violence. Donc parce que j'étais une femme battue, j'étais une femme maltraitée, j'étais une femme, vous pouvez dire, violée par le mari. Malgré ça, j'ai essayé de garder les choses à l'amiable pour le développement sain des enfants.
Alors qu'elle vient d'épouser un autre homme, sa vie bascule. Son ex-mari décide de se venger en récupérant leur aîné, une fillette de 9 ans, ce que lui permet encore la loi marocaine.
Les enfants, ils étaient battus, un harcèlement psychique, ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais à la maison, je faisais quoi, où je dormais.
La première mouture du nouveau code de la famille, dévoilée il y a une semaine, revient sur cette disposition et accorde aux femmes divorcées, remariées, le droit de garder leurs enfants. Alors Mariem est...
très soulagée. Alhamdoulilah, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que moi et toutes les autres mamans qui ont le même cas que moi, on est très chanceuses. Vous imaginez qu'une mère ait dit « je suis chanceuse ». Pourquoi ? Pour un droit qui est fondamental, de rester avec mon enfant.
Rien n'est encore définitif. Le Parlement doit se pencher sur la réforme.
Avant, l'homme, il pouvait refaire sa vie. Tu te maries, tu fais ce que tu veux, tu peux même divorcer 4-5 fois. Mais ton ex, elle est toujours soumise à toi. Tu la tiens toujours en soumission. Et ça, c'est pas quelque chose qui était équitable.
Allô, bonjour.
Au bout du fil, Sarah, 9 ans, d'une maturité ahurissante pour son âge. Elle est en week-end chez sa grand-mère.
Eh bien, j'étais satisfaite par la nouvelle. J'étais heureuse.
Dans le salon, il y a aussi Mehdi. Silencieux depuis le début de l'interview, le nouveau conjoint de Mariem esquisse un sourire quand Sarah explique pourquoi elle veut rester avec lui et sa mère.
Parce que c'est vrai que c'est pas mon papa, c'est pas mon vrai papa, mais je l'aime quand même et c'est comme un papa magique pour moi.
Ça veut dire quoi ça?
C'est un papa gentil, un papa magique.
Dieu merci, je n'ai pas eu de problème d'intégration avec les enfants de ma femme. À la maison, nous vivons comme une famille. Je les considère comme mes enfants. Je n'ai aucun souci par rapport à ça.
Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en Peace.
Et les principaux titres de l'actualité internationale de ce jeudi 2 janvier 2025, les réactions de soutien qui affluent vers les États-Unis après ce que Joe Biden a qualifié d'attaque ignoble, une attaque à la voiture Bélier ayant frappé le quartier français de la Nouvelle-Orléans au moment des célébrations du Nouvel An. Au moins 15 morts et une trentaine de blessés, le dernier bilan. Le FBI évoque un possible acte terroriste, indiquant notamment qu'un drapeau de l'État islamique a été retrouvé dans le véhicule du suspect, un homme de 42 ans. Ancien militaire de l'armée américaine, il a été abattu par la police. Les États-Unis, où un Cybertruck, un des pick-up de Tesla, a par ailleurs explosé devant l'hôtel Trump de Las Vegas. Une personne est morte à l'intérieur du véhicule. 7 autres personnes ont été légèrement blessées. Selon la présidence, les forces de l'ordre cherchent désormais à savoir si cette attaque est liée à celle de la Nouvelle-Orléans. Et puis un drame également au Monténégro. Un homme ivre et armé a tué 10 personnes et blessé 4 autres au terme d'une altercation dans un restaurant et d'une virée meurtrière dans un village du sud du pays. Des membres de sa famille sont parmi les victimes. L'homme de 45 ans s'est ensuite donné la mort. Un Retour à Madagascar pour le dossier Afrique Économie où le modèle numérique de CRED, un service de microfinance de la BNI, l'une des principales banques du pays, a su se faire une place auprès de micro et petits entrepreneurs. Des prêts sans cash, sans agence et accessibles depuis n'importe quel téléphone. C'est ce que propose l'initiative CRED depuis maintenant 5 ans. Et sur la Grande Île, ça fonctionne plutôt bien. Reportage Pauline Le Troquier.
Allô ? Oui, bonjour, madame Viviane.
Les appels de clients fidèles se succèdent dans ce magasin de vente de Provende, à Yavelou, en banlieue sud de la capitale. Le local est devenu le repère des éleveurs de la zone, dépendant de ses graines pour nourrir leurs bêtes. Une réputation que Sanj, sa gérante, doit en partie au microcrédit.
Avant, j'avais des difficultés parce que dans le coin, il y a beaucoup de demandes et je n'arrivais pas à toutes les honorer. Grâce au prêt, j'ai pu étendre mon activité, ouvrir un second point de vente, acheter une voiture de fonction et une maison.
Aïvat, tout au nord de la capitale, Youbil, le tireur de charrettes, comme il est surnommé dans le quartier, remplit ses bidons jaunes. Ce livreur d'eau potable en est à son cinquième crédit, 2500 euros remboursables sur 18 mois. Autrefois locataire d'une modeste charrette, il a pu en acheter deux aujourd'hui, se professionnaliser et gagner des clients fixes.
J'étais conscient des risques et j'ai même eu peur d'aller en prison si je n'arrivais pas à rembourser. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'investisse dans l'activité, il fallait que ça marche. Le problème des gens ici à Madagascar, c'est qu'ils peuvent utiliser le prêt à des fins personnelles.
Son expérience réussie avec le microcrédit, Youbi l'attribue aussi à la souplesse du modèle CRED. Plus besoin de déplacements coûteux jusqu'aux agences. Le contrat est signé sur tablette au domicile du client. Plus besoin non plus de paperasse, souvent impossible à réunir pour les entrepreneurs informels.
Je fais le dépôt d'argent sur mon téléphone. Je tape un code, je suis les instructions et directement mon remboursement est passé. C'est facile, je ne perds pas de temps, je peux faire le remboursement de n'importe où, même la nuit, sans frais.
Situé entre 20 et 33%, les taux d'intérêt annuels pratiqués par CRED sont lourds à supporter, mais jugés raisonnables dans un marché où ils dépassent encore les 100%. Pour éviter le piège du surendettement, Adrian Chindris, premier responsable de CRED, assume un ciblage sélectif de sa clientèle.
Notre cible sont les entreprises génératrices de revenus, des entrepreneurs semi-formels que nous essayons de formaliser. Avec une collecte d'informations qui est très bien ciblée, qui peut nous dire si le client est surendetté ou il est forcé de prendre un crédit chez nous.
Dans un pays où l'appropriation de la technologie reste une barrière, ce modèle digital est nomade à profiter à ce prêt à l'adopter. Sans évincer le modèle classique de l'agence statique, CRED a forcé l'industrie à suivre la voie de la digitalisation. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Le dossier Afrique Économie à retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Un duo au cœur de la chronique des matières premières ce matin et au cœur des perspectives de l'année 2025. Xi Jinping et Donald Trump, le président chinois et le président américain élu, leurs relations et politiques respectives seront scrutées à la loupe pour suivre les cours du pétrole, des céréales ou encore de certains métaux de base pour cette nouvelle année. Et pour rajouter une dose d'inconnu, c'est le climat qui pourrait jouer les troubles faits en 2025. La chronique de Marie-Pierre Olfant.
Plus que jamais, prédire les prix des matières premières cette année revient à prévoir des choix politiques. Et les premiers sont ceux qui seront opérés par Donald Trump, avec pour commencer sa nouvelle politique douanière, en particulier sur les produits chinois. Si la Chine vend moins de biens manufacturés aux États-Unis, le marché des métaux de base qui entrent dans leur composition pourrait être impacté, tout comme les pays qui les produisent. Les marchés agricoles sont aussi au cœur de la nouvelle guerre commerciale annoncée par Donald Trump. Lors de sa dernière présidence, la hausse des taxes américaines sur les importations chinoises avait conduit la Chine à se détourner du soja américain. C'est encore la crainte aujourd'hui. L'empire du milieu pourrait également bouder le maïs américain et se fournir un peu plus au Brésil. Mais le destin du grain jaune sera probablement scellé surtout par la politique du nouveau maître de la Maison-Blanche sur les agrocarburants. Aujourd'hui, plus d'un tiers de la production américaine est convertie en bioéthanol. Si le curseur bouge, c'est l'offre en maïs et son prix qui seront impactés. Sur les marchés du pétrole, c'est la politique énergétique de Donald Trump que l'on surveille. Son scepticisme vis-à-vis du changement climatique et sa volonté d'augmenter la production américaine de brut pourraient renforcer l'offre et donc faire baisser les prix. Une stratégie qui pourrait finir par mettre à mal également la cohésion des pays de l'OPEP+, qui s'efforcent depuis des mois de restreindre leur production pour éviter que les cours ne s'effondrent. Mais la politique ne fera pas tout. Le prix mondial des céréales sera aussi évidemment guidé par la météo. 2024 a été marqué par un retour de l'angoisse climatique sur les marchés, explique un expert. On peut citer les immenses dégâts sur la production de blé en France, premier exportateur européen, l'impact sur la récolte de café au Vietnam et au Brésil. C'est encore aujourd'hui la crainte d'une météo défavorable en Afrique de l'Ouest qui tire à nouveau les prix du cacao à la hausse.
Marie-Pierre Olfant pour la chronique des matières premières. Avant le retour de l'actualité internationale, un point sur l'actualité des territoires français de l'océan Indien. Le journal présenté par Benoît Ferrand ce jeudi. Et à la une, Manuel Valls, ministre des Outre-mer, qui, contrairement au Premier ministre François Bayrou, a prolongé son séjour dans le 101e département français, dévasté par le passage du cyclone Chido. Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour. Avant de regagner l'île de la Réunion, puis la métropole, hier, mercredi, Manuel Valls est ainsi allé mardi à la rencontre des agriculteurs sinistrés. L'occasion de parler reconstruction, bien sûr, mais aussi écologie. Je vous propose d'écouter l'ancien Premier ministre, mais aussi un agriculteur maorais, courageux et déterminé à rebâtir, tous les deux au micro de Mathis Debril.
Il y a une très grande demande, il y a une demande d'urgence. Donc il faut répondre à l'urgence, c'est-à-dire aux revenus des agriculteurs, à la reconstruction des serres. Ensuite, il faut imaginer en effet un plan global pour l'agriculture ici à Mayotte, avec des produits qui sont essentiels. Je pense au manioc et à la banane. Je pense aussi à la formation des agriculteurs d'aujourd'hui et de demain. Et je pense en effet aussi à la filière biologique. Et puis je pense enfin au reboisement, parce que ça va de pair. Je connais Mayotte et je suis vraiment bouleversé, bien sûr, par tout ce que je vois, tout ce que j'entends, les morts, les blessés, les dégâts économiques, les bâtiments, les écoles qui ont été éventrés par le cyclone. Mais cette forêt était magnifique. Donc c'est un désastre de nature et c'est un désastre écologique. Donc il faut aussi penser cela. Donc c'est ce plan global qui doit être imaginé et dans lequel on doit être le plus performant possible.
Je sais que je vais pouvoir reconstruire l'exploitation au-delà de ce qui était. Plus, aujourd'hui, Chido nous a donné beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Il faut bien reconstruire et refaire les choses dans le bon sens et que si, par malheur, revient notre Chido, qu'on ne puisse pas tout perdre. On va reconstruire mieux, le mieux possible. La haute technologie qu'on va appliquer. Aujourd'hui, on ne va plus jouer sur de l'agriculture qu'on appelle de grattage de machin, mais de la technologie et la plus haute technologie qu'on va l'appliquer.
Un peu plus de deux semaines maintenant après le passage du cyclone Chido, les compagnies aériennes Air Austral et Corsair ont repris hier, mercredi, leur rotation à destination de Mayotte. Rotation qui avait été interrompue suite aux dégâts causés aux infrastructures de l'aéroport international Marcel Henry. Une reprise, faut-il vraiment le préciser, qui était très attendue. Reportage La Première Réunion à Jayawaro.
Parmi les premiers voyageurs en vol commercial vers Mayotte ce mercredi, Sabrina Payette, qui s'est rendue au guichet d'Air Austral hier pour régler un souci de bagages. Prix de son billet
375 €. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une petite augmentation, mais voilà. Je pars normalement à 14h30. C'est un soulagement parce que j'avais pas de nouvelles de ma fille depuis un moment, donc là, je vais pouvoir voir comment elle va, voir l'état de la maison, enfin voilà quoi. Commencer le rangement, nettoyage et essayer de reprendre les choses quoi.
Saïev, lui, vient tout juste d'obtenir un billet.
Je suis venu en fait pour accompagner ma grand-mère qui doit rentrer à Mayotte parce que ça fait un petit moment qu'elle est bloquée à La Réunion. Donc là, elle voulait absolument rentrer pour retrouver la famille, voir comment ils vont déjà et constater les dégâts. Elle a pu avoir un billet, à peu près 495 € à peu près. Elle part le 3. Il n'y avait pas de place avant.
Mais d'autres arrivaient de Mayotte encore hier par des vols de rapatriement.
Ah, c'est bien pour les autres. Moi j'ai pu partir comme j'étais de l'éducation nationale, donc j'ai eu cette chance-là, donc c'est bien aussi pour les autres puisque les conditions là-bas sont très difficiles, surtout avec les enfants, c'est bientôt la rentrée, les écoles sont détruites.
Et pour gérer la forte affluence attendue, un dispositif spécial rouge est déployé à l'aéroport. Le dépose minute est fermé et pour les départs vers Mayotte, les passagers doivent absolument présenter leur billet ou leur carte d'embarquement imprimée, un dispositif valable jusqu'au 6 janvier.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Bonne journée à vous, Benoît Ferrand, et à vous qui nous écoutez. Dans une minute sur RFI, le retour de l'actualité internationale. Il sera 5h à Paris.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
conseils de spécialistes dans votre recherche d'emploi. Comment valoriser vos diplômes? Savoir parler de votre expérience professionnelle et de vos compétences dans un monde du travail en pleine mutation. 8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à partir de 10h10 TU sur RFI. Pourquoi RFI dit ça? Juliette Rangeval.
Pourquoi RFI parle Fulfulde et Mandinkan, les langues Peul et Mandingue? Avec la rédaction de Dakar, nous revenons sur l'essor de ce pôle régional installé au Sénégal et sur les spécificités du travail des journalistes de ces rédactions.
Écoutez Pourquoi RFI dit ça avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 11h10 et 19h40 TU sur RFI.